Bonjour. On va méditer la parole de Dieu dans 1 Chronique, le chapitre 13. Nous lirons les versets 1 à 14. 1 Chronique 13, 1 à 14. Lisons ensemble. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupé du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirja-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirja-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, de devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la nation, de la maison, pardon, d'Abinadab. Uzza et Akjo conduisaient le char, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérès Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Je m'arrête là pour cette lecture. Le titre de mon message s'intitule « Retrouver la présence de Dieu ». Retrouver la présence de Dieu. Présence physique, présence spirituelle. Parce qu'on peut être présent physiquement dans un lieu, mais notre esprit peut être ailleurs. On n'est donc pas réellement présent, parce que la réalité de toute chose est spirituelle. Si notre esprit divague, si notre esprit se concentre sur autre chose, si notre esprit est captivé par autre chose que la présence de Dieu, quand bien même notre corps est là, il se peut que nous ne soyons pas en communion avec Dieu. Cela est vrai même quand nous venons dans la présence de Dieu, dans la communion des saints, dans le rassemblement de l'Église. Jésus a dit, en Jean chapitre 10 au verset 9, il a dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus n'a jamais dit que si quelqu'un entrait par une autre personne qui représenterait la porte du salut, la porte du ciel. Il a bien dit que c'est lui. Et il dit que c'est si on entre par lui que le salut aussi entre dans notre vie. Et en Matthieu 10, 32, il ajoute, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, nous apprenons que dans les cieux, dans la présence du Père, c'est Jésus-Christ qui atteste au Père qu'une personne lui appartient ou qu'une personne ne lui appartient pas. C'est lui qui dit au Père, « Je connais celui-ci, il m'appartient, c'est mon fils, elle m'appartient, c'est ma fille. » Et c'est lui qui dit au Père qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de personnes qui ont connu la présence de Dieu, comme nous aujourd'hui, certaines s'en sont écartées. Et lorsqu'on perd la présence de Dieu et qu'on y reste longtemps hors de la présence de Dieu, alors on peut vivre ce que la Bible nous dit de ne pas vivre, on peut devenir des auditeurs oublieux. On oublie les expériences du passé, les engagements du passé, la parole de Dieu que Dieu nous a enseignée. On peut devenir des auditeurs oublieux et même certaines de ces personnes qui ont connu la vérité peuvent finir par croire qu'il y a d'autres moyens de salut en dehors de Jésus-Christ. Or, Christ dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. S'il entre par moi, c'est la seule vérité que nous ayons reçue pour le salut de notre âme. C'est entrer par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, restant loin de la présence de Dieu, pour certaines personnes qui ont suivi les enseignements du Christ, qui ont marché avec lui, qui même ont servi le Christ, quel que soit le poste qu'elles occupaient dans une communauté chrétienne, elles peuvent finir par retourner à l'endroit qu'elles avaient abandonné lorsque Jésus s'est révélé à elles. Et certainement vous en connaissez, moi j'en connais, et même des personnes d'ici qui sont reparties, par exemple, au milieu des statues, au milieu des paroles qui ne sont pas forcément inspirées de Dieu. Et elles vous disent, mais nous prions le même Dieu. Ce qui veut dire que la fois où Dieu les avait éclairées et qu'elles avaient abandonné ces lieux pour venir réellement à Christ, c'était certainement une erreur, puisque Dieu les avait éclairées, mais elles y retournent et elles finissent par dire, mais nous servons le même Dieu. J'étais un jour avec une de mes collègues, nous allions ensemble au travail, et puis elle n'est pas de confession évangélique, elle me disait, mais tu sais que nous sommes pareils, où est la différence entre nous et vous? Et là, j'ai commencé à lui rappeler, à lui donner, si jamais elle ne le savait pas, une certaine liste de choses que nous ne croyons pas et que nous ne pratiquons pas de la même manière. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Lorsque les gens vous disent, nous avons le même Dieu, nous prions le même Dieu, encore faut-il vérifier que ce qu'elles croient, ce qu'elles font, correspond vraiment à la foi chrétienne. Par exemple, nous ne baptisons pas de bébés, parce que Jésus nous enseigne que seule une personne consciente peut prendre la décision de le recevoir comme sauveur et seigneur de sa vie. Un bébé ne peut pas le faire, même si on lui administre un baptême, cela n'a aucune valeur devant Dieu. Ce n'est pas un choix personnel, nous ne prions pas les morts. Dieu ne veut pas que nous soyons en communion avec des morts, avec l'esprit des morts. Et Dieu nous enseigne aussi qu'à travers cela, nous pouvons être, et c'est le cas, en communion véritablement avec des démons, avec des esprits qui se font passer pour les défunts. Et je pourrais continuer ainsi, donc, en ce qui concerne le fait de connaître le vrai Dieu, de pratiquer réellement ce que Dieu nous demande de faire. Hébreux 10, 28-29 nous dit ceci. À l'époque, dans l'Ancien Testament, il était dit « Celui qui a violé la loi de Moïse, il mourait sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Il suffisait qu'il y ait au minimum deux témoins pour accuser quelqu'un d'une chose et cette personne pouvait encourir la mort. Mais concernant Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, il est dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Et c'est ce qui se passe lorsque les gens perdent la présence de Dieu. Perdant la présence de Dieu, elles ne sont plus éclairées par la révélation de Dieu et elles peuvent donc retourner à ce que la Bible dit, la truie lavée retourne à son bourbier et le chien retourne à ce qu'il avait vomi. C'est pour ça qu'elles peuvent vous dire, mais nous prions le même Dieu, il n'y a plus de problème. J'ai connu aussi une dame qui, ça peut arriver malheureusement, était dans une situation adultérine. Et puis un jour, Jésus a touché sa vie. Touchant sa vie, elle est venue à Christ. Elle s'est engagée par les eaux du baptême. Elle a dit à Jésus, je veux te suivre, je t'appartiens, je veux être avec toi pour l'éternité. C'est ce qui s'appelle la confession de foi. Ce que nous déclarons en public devant tous lorsque nous témoignons du fait que Jésus est notre sauveur. Et malheureusement, après un certain nombre de marches chrétiennes, elle a rétrogradé et elle est retournée dans sa vie passée, non seulement de point de vue de qualité de vie, mais aussi par rapport à la véritable foi chrétienne, elle est aussi retournée au milieu des statues, au milieu des esprits qu'on peut prendre pour Dieu mais qui ne sont pas Dieu. Et c'est vraiment ça, perdre la présence de Dieu. La présence de Dieu, lorsqu'on la perd, eh bien, elle nous conduit dans les ténèbres. Nous devons veiller à ne pas perdre la présence de Dieu, qui ne consiste pas seulement à être physiquement présent en un lieu, mais spirituellement à rester connecté avec Dieu. Hébreux 10, 37 dit, « Encore un peu de temps, c'est cela concerne le Christ Jésus. » Celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. C'est Jésus-Christ parce qu'il nous a fait aussi la promesse qu'il reviendra. Tout ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a promis, c'est toujours réalisé parce qu'il est la parole créatrice. La parole par laquelle rien n'a pu être fait. Tout ce qui a été fait, nous dit la parole de Dieu, elle a été faite par Jésus-Christ. Tout est fait pour lui et tout subsiste en lui. Donc, Jésus avait annoncé à ses disciples, il leur avait dit clairement un jour qu'il allait être livré aux pharisiens, aux scribes, aux anciens du peuple pour être crucifié. Mais il leur avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Et cela s'est réalisé. Et en partant vers le Père, une fois que sa mission était finie sur la terre, il leur avait dit, attendez la promesse à Jérusalem qui doit se réaliser pour vous, le Saint-Esprit viendra. Et ça s'est aussi réalisé, tout ce que Dieu dit se réalise, tout ce que Dieu annonce est vrai. En son temps, la parole de Dieu trouve son accomplissement parce que Jésus est la parole même réelle de Dieu par laquelle Dieu fait toutes choses. Et il nous a aussi dit qu'il reviendra. Il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, si nous sommes dans sa présence, il nous prendra. Mais si nous avons perdu sa présence, il ne pourra pas nous prendre. C'est une réalité aussi à laquelle nous devons penser afin que nous ayons le désir de supplier Dieu s'il le faut, chaque jour de notre vie, de nous aider à demeurer dans sa présence. Parce que s'il vient et que nous ne sommes pas dans sa présence, quand bien même il le voudrait, parce qu'il est amour et qu'il a donné sa vie pour nous sauver, quand bien même il le voudrait, il ne pourrait pas si nous ne sommes pas dans sa présence. Et nous savons que les vacances, par exemple, sont propices au fait de pouvoir s'éloigner de Dieu d'une manière ou d'une autre. Faisons attention à cela. Durant les vacances, à ne pas perdre la présence de Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu. Il y a des avantages à être dans la présence de Dieu, car c'est là que nous pouvons obtenir des instructions importantes de la part de Dieu pour notre vie, pour nos projets, notre avenir, nos besoins, mais aussi naturellement notre salut. parce que Dieu est réellement là. Et justement, dans un acte d'obéissance, l'homme qui s'appelait Moïse, que Dieu avait choisi, afin qu'il soit le leader du peuple d'Israël, Moïse, par obéissance à Dieu, un jour, il se tenait dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu voulait qu'il soit. Et gloire soit rendue à Dieu lorsque nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Comme ce matin, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Peut-être que d'autres ont choisi autre chose. Certains sont partis en vacances, il n'y a aucun mal à cela. Mais d'autres ne sont peut-être pas partis en vacances, mais n'ont pas choisi d'être là où Dieu veut qu'ils y soient. Car il est dit, nous l'avons vu peut-être pour ceux qui étaient là mardi, que dans la communion des saints, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il prend plaisir à envoyer la bénédiction là où deux ou trois se rassemblent en son nom. Et il était là où Dieu voulait, sur le mont du Sinaï, pendant 40 jours, 40 nuits, et il va recevoir les instructions importantes, capitales, pour le peuple de Dieu. Et parmi tout ce que Dieu va lui révéler, va lui donner comme instruction, Dieu lui demandera de construire une arche. Et cette arche, elle est très importante. Tout ce que Dieu dit est important. Mais l'arche de l'Alliance, c'était réellement le symbole de la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël. Car Dieu avait décidé de se manifester au-dessus du propitiatoire de l'arche entre les deux chérubins. Dieu disait à Moïse qu'il allait vraiment se manifester de cette manière au sein du peuple d'Israël. Exode 25, 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Je passe, j'arrive au verset 18. Tu feras 2 chérubins, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'une à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Le témoignage, c'était les tablettes où Dieu avait écrit les paroles que le peuple devait connaître, garder dans leur cœur et mettre en pratique. Il y avait autre chose aussi, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il y avait aussi une urne d'or qui devait contenir donc de la manne. Mais on n'aura pas le temps de voir ces détails, car vous savez bien que tout ce que Dieu fait a une signification et une importance. Mais on n'aurait pas le temps de parler de ces éléments que contenait l'Arche de l'Alliance. En tout cas, au verset 22, il est dit « celle-là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire. Entre les 2 chérubins placés sur l'Arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » C'était donc un lieu de rencontre où le peuple, à travers Moïse, car seul Moïse avait cette prérogative, le peuple, à travers Moïse, avait l'assurance de la présence de Dieu au milieu d'eux. Quelle gloire lorsque nous avons l'assurance que Dieu est dans notre vie, que Dieu agit en notre faveur. Car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si des ennemis se lèvent contre nous et que nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, alors c'est l'Éternel qui combattra pour nous. C'est lui qui mettra en déroute nos ennemis. Il étendra son bras par sa parole et son autorité. L'ennemi fléchira devant nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que David, devenu roi d'Israël, connaissant l'importance des choses de Dieu, et Dieu n'a pas dit pour rien que c'était un homme selon son cœur, Christ Jésus. Que tous les enfants de Dieu deviennent des enfants de Dieu selon le cœur de l'Éternel. Que chacun de nous, nous devenions des enfants de Dieu selon le cœur de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il en connaissait l'importance de la présence de Dieu au milieu de son peuple. En 1 Chronique 13, 6, dans l'introduction, David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Cela avait une telle importance que même sur le terrain de guerre, lorsqu'ils partaient à la guerre, l'arche aussi les accompagnait. Ayant l'assurance de la présence de Dieu par l'intermédiaire de l'arche de l'Alliance, ils avaient le cœur assuré face aux ennemis pour être victorieux. Et sur le terrain, l'arche aussi les accompagnait avec les sacrificateurs et les Lévites. Et lorsqu'il a fallu, après la mort de Moïse, d'Aaron, et de toute la génération qui a traversé le désert pendant 40 ans, lorsqu'il aura fallu traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, il a fallu que l'arche aussi soit là. Il fallait que les sacrificateurs et les Lévites puissent porter l'arche pour que, exactement comme pour la mer Rouge, que les eaux du Jourdain se séparent et que le peuple puisse traverser à pied sec. Lorsqu'il a fallu conquérir la ville de Jéricho pour faire tomber ces murs-là, il fallait aussi, en plus de ce que Dieu leur avait demandé de faire, qu'ils aient l'arche de l'Alliance avec eux, la présence de Dieu, le Dieu de la victoire, le Dieu de la délivrance, le Dieu du succès, le Dieu du salut, le Dieu qui les avait choisis en tant que peuple, comme Dieu nous a choisis, car nous sommes le peuple de Dieu, l'Église du Dieu vivant et vrai. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Nous appuyons le Christ dans ce qu'il est et nous le représentons, ambassadeur du Christ sur la terre, l'arche de l'Alliance. Alors, Romains 8, 31, 32 nous dit ceci: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous? C'est-à-dire si Dieu est présent dans notre vie, si nous n'avons pas perdu sa présence. Si réellement nous avons gardé la présence de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si la présence de Dieu est dans la vie d'un chrétien, si l'enfant de Dieu n'a pas perdu ça, la présence de son Créateur, qui peut être contre cet enfant de Dieu? Jésus n'a-t-il pas dit: vous ferez encore des plus grands miracles que ce que j'ai fait. Vous ferez des plus grandes choses que ce que j'ai fait. Les ferons-nous par nos propres forces? Non. Nous ne pouvons les faire que si nous avons la présence de Dieu dans notre vie, la gloire de Dieu qui se manifeste à travers nous. Ce n'est pas nous, car la gloire ne nous appartient pas. Elle ne peut être donnée ni à un homme, ni à une idole, ni à quoi que ce soit. C'est la présence de Dieu qui peut manifester à travers nous, quel que soit le chrétien, la gloire et la puissance du Dieu de la vie. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors Moïse aussi, il connaissait l'importance d'avoir Dieu à ses côtés et aux côtés de ce peuple. Parce qu'il dira à Dieu en Exode 33, 13, 16, « Maintenant, c'est Moïse qui parle, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Seigneur, que chacun de nous dise, Christ Jésus, par le Saint-Esprit, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Si tu me fais connaître tes voies, révèle-moi tes voies par le Saint-Esprit. Christ, révèle-toi à moi par l'Esprit Saint. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Et l'Éternel va répondre à Moïse, Dieu va répondre à Moïse. Dieu lui dit: « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » La présence de Dieu nous garantit du succès, de l'amour, de la protection, de la victoire que Dieu nous donne. « Je marcherai moi-même avec toi. » Quand Dieu nous donne une telle parole, si nous sommes dans l'adversité ou que nous soyons dans le repos, lorsqu'une telle parole nous est vraiment donnée, Ça booste notre foi. On a envie de se lever, de crier, de louer, de célébrer l'Éternel quand une telle parole nous est donnée. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais pourtant, malgré cette parole, Moïse va insister. Il va insister parce qu'il veut tellement la présence de Dieu. Il ne veut pas que cette présence se perde. Malgré cette parole qu'il vient de recevoir, il insiste. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Pourtant, Dieu vient de le rassurer. Mais lui, il veut dire à Dieu, signe quelque chose pour moi là. Tiens, je te donne un papier, signe ce que tu viens de me dire. Signe toi-même, montre-moi. Ce papier-là, je le garderai avec moi tout le temps. Et si jamais il se passe quelque chose, je sortirai, je te montrerai ta signature. Tu as signé, tu m'as dit, tu marcheras avec moi. Il veut tellement de la présence de Dieu qu'il insiste auprès de Dieu. Ce n'est pas la peine de nous faire partir si tu ne marches pas avec nous. Il sait que sans la présence de Dieu, il n'y aura pas le succès et ce sera très difficile. Il est dit ainsi, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » L'arche de Dieu, c'était la garantie de la présence de Dieu au sein de son peuple. Là où Dieu avait dit à Moïse, « Je te rencontrerai à travers cette arche au-dessus du propitiatoire entre les deux chérubins. » Et puis, un jour, ils partent à la guerre. Ils étaient déjà partis à la guerre avec l'arche. Ils avaient déjà remporté des victoires. Mais un jour, ils partent à la guerre et ils perdent la victoire face aux Philistins. Alors leur foi vacille. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont perdu la présence de Dieu. 1 Samuel 4:3, on va voir leur réaction. Ils reviennent de cette défaite. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?» Et regardez ce qu'ils disent. « Allons chercher l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Ils n'avaient pas l'arche ce jour-là. L'arche n'était pas partie avec eux sur le terrain de guerre face à leurs ennemis, les Philistins. « Allons chercher l'arche à Silo, l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller chercher l'arche là où il y avait le prophète à cette époque, Samuel. Ils vont chercher l'arche de l'Éternel. Mais quand ils iront chercher l'arche de l'Éternel, Moïse avait reçu de Dieu des consignes et des directives claires sur la manière dont cette arche devait être transportée et qui devait officier par rapport au service de l'arche. C'étaient les Lévites et les sacrificateurs. N'importe qui ne pouvait pas aller comme ça chercher l'arche. Là où il y a la présence de Dieu, la sainteté de Dieu se manifestait à ce moment-là sur cette arche. N'importe qui ne pouvait pas y aller. Il fallait des personnes consacrées. Dieu avait choisi les Lévites, les descendants d'Aaron, Aaron et ses descendants, afin qu'ils soient au service de Dieu, consacrés à tout ce qui concernait donc le service de Dieu. Et là, ils vont chercher l'arche et ils vont aussi, c'est logique, emmener avec eux les sacrificateurs. Mais on va voir qui étaient ces sacrificateurs, malheureusement, à cette époque. Il y avait un homme qui s'appelait Élie. Il était déjà très âgé. Il ne voyait pratiquement plus rien. Il était assis parce qu'il ne pouvait pratiquement plus rien faire. Il était très âgé. À un endroit, la Bible dit qu'il avait 98 ans. Et naturellement, ses fils étaient comme leur père, consacrés, du moins censés l'être, au service de Dieu. Et c'était eux les sacrificateurs, entre autres sacrificateurs, il y avait les fils d'Élie. Voyons qui était cet homme, 2 Samuel 2:12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, les sacrificateurs au service de Dieu, qui assuraient le service du tabernacle, le service de la sainteté de Dieu. Ils étaient pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était leur manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Et là, Dieu explique que leurs serviteurs, à ces sacrificateurs, ne respectaient pas la manière dont Dieu leur avait demandé de faire les choses, notamment pour que leurs besoins soient pourvus. Lorsque les personnes emmenaient les viandes, par exemple, pour les sacrifices, il y avait une manière de faire et ils ne respectaient ça. Et c'était des voleurs. Ils volaient la viande de Dieu, la viande qui était consacrée au sacrifice. Eux, ils les volaient. Et en plus de voler, donc il est dit au verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et il est dit aussi que Élie va apprendre cela, il va apprendre ce que faisaient ses fils, qui couchaient, la parole de Dieu nous dit au verset 22, il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était aussi une tente de rencontre où Dieu se manifestait. Et là où Dieu se manifestait, il couchait avec des femmes qui venaient justement devant cette tente d'assignation. Et puis, leur père leur dit, cet homme qui est âgé, qui ne peut plus faire grand-chose, Samuel 2, 29, il dit, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes ?» Alors, pardon, c'est Dieu qui dit cela, pardon. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné, ordonné de faire dans ma demeure ?» Et d'où vient... Et voici ce que Dieu dit à Élie le père, le sacrificateur en chef. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Au lieu de reprendre ses fils comme il aurait dû, là, il ne fallait pas rigoler. Il ne fallait pas juste passer une petite pommade sur leur dos. C'était des sacrificateurs qui étaient vraiment dans une vie de débauche, de dépravation, méprisant Dieu, sa grâce et sa miséricorde et sa sainteté. Et au lieu que ce père reprenne ses fils, il leur fait juste une petite remontrance tranquille. « J'ai appris que ce que vous faites, ce n'est pas bien mes fils. » Et à cause de ça, Dieu va bannir définitivement de sa sacrificature cette famille, la famille d'Élie et ses descendants. Ils seront frappés de mort, que ce soit Élie, que ce soit les fils. Faisons attention, Dieu nous dit, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Si quand on doit donner gloire à Dieu, on élève quelqu'un d'autre au-dessus de Dieu. Quelle que soit la personne, membre de notre famille, on donne la priorité, la gloire qui revient à Dieu, on la donne à quelqu'un d'autre, la présence de Dieu ne nous sera pas favorable. D'où viens-tu que tu honores tes fils plus que moi? Celui qui aime son fils, sa fille, son frère, sa sœur, sa mère, son père, plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors la présence de Dieu, elle est redoutable pour nos ennemis. Mais je passerai dessus par rapport au temps imparti, parce que après, l'arche de Dieu, eh bien justement, sera perdue. Quand ils sont partis avec ces fameux fils Ophni et Phiné sur le terrain, et que c'était donc au milieu du peuple. La dépravation, le péché, le peuple était dans le péché, les sacrificateurs étaient dans le péché. Ils avaient perdu la présence de Dieu, ils ne le savaient même pas. Ils ont cru qu'il leur suffisait d'aller chercher là l'arche de l'Alliance. Parce que maintenant, ils utilisaient l'arche comme un porte-bonheur. Voici comment ils utilisaient la présence de Dieu. La présence de Dieu n'était devenue qu'un porte-bonheur pour eux. Ils se sont dit, non, c'est parce que l'arche de l'Alliance n'est pas avec nous. Allons chercher l'arche. Ils ont été chercher l'arche, mais ils ont encore connu une défaite, deux défaites de suite, avec les sacrificateurs au milieu du peuple sur le terrain avec eux, parce qu'ils avaient perdu la présence de Dieu. Dieu n'était plus là combattant pour eux. Faisons attention à ne pas perdre la présence de Dieu, car nous allons commencer à nous battre par nous-mêmes, par nos propres forces. Nous allons nous épuiser. Ils avaient perdu la présence de Dieu. Et les ennemis de Dieu sauront aussi ce qu'est avoir Dieu contre eux. Parce qu'ensuite, les Philistins partent avec l'arche. Ils l'emmènent dans le temple de leur dieu Dagon. Et le lendemain, il trouve ce dieu Dagon tombé à plat devant l'arche de l'Éternel. Parce que nul ne peut résister devant le Tout-Puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs et l'alpha et l'oméga. La parole de Dieu nous dit parce que Christ s'est humilié, il s'est abaissé, il a reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dagon a fléchi devant la présence du roi de gloire. Alors ils ont relevé Dagon. Et le lendemain, ils ont trouvé encore Dagon fléchi devant le roi de gloire. Mais cette fois-ci, sa tête même était cassée et ses bras étaient cassés. Tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Ne perdons pas la présence du Christ dans notre vie. Si nous avons la présence de Jésus-Christ, tout genou qui viendrait contre nous pour nous faire du mal, contraire à l'Esprit de Dieu, fléchira devant nous. Parce que si nous avons la présence de Dieu au nom du Christ Jésus, si nous annonçons la vérité, nous proclamons la vérité des promesses de Dieu, nos ennemis fléchiront devant nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, ils n'ont pas pu garder l'arche. Ils la faisaient passer de ville en ville parce que dans chaque ville où ils envoyaient l'arche, Dieu leur envoyait des jugements. Ils souffraient. Ils étaient éprouvés, du mal leur était fait, tant qu'ils avaient l'arche. Ils l'envoyaient d'une ville, le malheur arrivait dans cette ville. Ils l'envoyaient dans une autre, le malheur arrivait. Ils l'envoyaient dans une autre, jusqu'à ce qu'il soit, se soit décidé de renvoyer l'arche en Israël. La présence de Dieu est redoutable pour nos ennemis. Si nous avons compris ça, nous ferons tout pour ne pas perdre cette présence. Le peuple était dans le péché, le peuple avait perdu la présence de Dieu, mais parce que l'arche de l'Éternel avait été prise par les ennemis ont découvert à travers ça ce qu'était la présence de Dieu. Et ils n'ont pas pu garder l'arche, ils l'ont renvoyée en Israël. Alors l'arche est retournée en Israël, mais avant que cette arche n'arrive à Jérusalem, beaucoup d'années vont passer. Et c'est comme ça que certains qui malheureusement ont perdu la présence de Dieu tardent à retrouver cette présence. Ne tardons pas. Si nous avons perdu la présence de Dieu, revenons. Si nous connaissons des gens qui ont perdu la présence de Dieu, dites-leur de retrouver la présence de Dieu. Plus de 20 ans s'est passé. Ils ont perdu du temps. Hébreux 3, 14, 15 nous dit, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Si nous ne retenons pas cette assurance que nous avions, nous allons perdre la présence de Dieu. Pourvu que nous retenions l'assurance que nous avions au commencement. Le commencement, c'est lorsque Jésus est venu dans notre vie, que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous étions bouillants, nous avions le feu de Dieu. Nous disions à Dieu, me voici, dis-moi ce que tu veux, je le ferai. Nous étions bouillants, pourvu que nous retenions ce que nous avions dès le commencement, l'assurance que nous avions. Et c'est pour ça qu'il est dit, pendant qu'il est encore dit, pendant que c'est possible, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Parce que la Bible dit, en Proverbes 6, 10, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention à maintenir la présence de Dieu dans notre vie, alors l'ennemi pourra nous surprendre à ce moment-là, comme un homme en armes. C'est un ennemi, un rôdeur, il vient nous surprendre parce qu'il constate qu'il n'y a plus la présence de Dieu dans nos vies. Rappelez-vous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, ils voient tout ce qui se passe dans les lieux invisibles parce que c'est leur domaine. Ils en font partie. Ils sont du monde du surnaturel et de l'invisible. Quand un esprit méchant regarde un enfant de Dieu, Il voit si cet enfant a en lui la présence de Dieu ou si cet enfant n'a pas la présence de Dieu. Il le voit. Et s'il voit la présence de Dieu, il ne peut rien faire, il ne peut pas s'approcher. Mais s'il voit que l'enfant de Dieu s'est éloigné de la présence de son Créateur, là, il va venir comme le rôdeur, comme un homme en armes pour nous surprendre, pour nous attaquer. C'est pour ça que David, après Saül qui a été un mauvais roi, David maintenant devenant roi, toutes ces années, vous imaginez, plus de 20 ans, plus, bien plus, entre 20 et 30 ans se sont passés où le peuple n'avait plus la présence de Dieu par l'intermédiaire de l'arche de l'Alliance. Mais lui, il se souvient, souvenons-nous. Il se souvient, c'est pour ça qu'il dit, si vous le trouvez bon, 1 Chronique 13, 2, 4. Et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous les côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons, après plus de 20 ans, ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Du temps de Saül, c'était la débandade. Mais maintenant, l'homme selon le cœur de Dieu arrive au pouvoir. Et même si toutes ces années se sont passées, lui, il n'a pas oublié. Pourquoi ? Parce que lui, dans sa vie personnelle, il n'a pas perdu la présence de Dieu. Et comme il n'a pas perdu la présence de Dieu, il se souvient qu'Israël avait une arche. Que là où Dieu se manifestait et garantissait au peuple la victoire contre les ennemis. Alors il dit, maintenant que je suis roi, Saül n'est plus, nous devons aller chercher cette arche. Et pourtant, l'arche était déjà en Israël depuis un certain nombre d'années. Les Philistins l'avaient renvoyée, mais l'arche était restée loin de Jérusalem et loin du temple de Dieu. Alors, il se passe quand même quelque chose, c'est qu'ils vont chercher l'arche, ils font un char neuf, ils mettent l'arche dessus, ils partent et ils sont joyeux, il y a la fête, ils dansent, ils chantent, il y a les cymbales, il y a les tambourins, c'est la fête, c'est la joie, parce que l'arche de Dieu revient là où elle doit être. Et pourtant, un drame va se passer. Un homme va être frappé de mort, Uzza, pourtant il veut faire du bien. L'arche est en train de pencher parce que les bœufs font pencher l'arche et il a peur, Uzza, que l'arche tombe et que l'arche puisse se rompre, se casser, se briser, se détériorer. Il veut faire une bonne action, mais pourtant il est frappé de mort. On ne peut pas chercher la présence de Dieu de n'importe quelle manière. Oui, il faut veiller à ne pas perdre la présence de Dieu, mais il faut aussi veiller à chercher la présence de Dieu de la bonne manière. Pas comme on le veut, pas de n'importe quelle manière, parce que cet homme est frappé de mort. Pourquoi est-il frappé de mort ? David même le dit. Verset 15 de 1 Chronique, chapitre 15 de 1 Chronique, verset 4. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, les fils de Kéa, Uriel, les chefs et ses frères. Après, je passe sur tout ça, j'arrive au verset 11. David appela les sacrificateurs. Sadoc et Abiathar et les Lévites, je passe, j'arrive au verset 21. Et regardez ce qu'il dit. Il s'adresse aux sacrificateurs, aux Lévites. Au verset 13, pardon. 13, pas 21. Il dit, parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. C'est ce qui est arrivé à Uzza, qui est mort. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Ils avaient voulu que la présence de Dieu vienne à travers l'arche, mais pas selon la loi. Il y en a de ceux qui veulent de la présence de Dieu, mais pas selon les règles que Dieu demande. Ils n'ont pas ramené l'arche selon les règles. Il fallait quatre porteurs, quatre lévites. Qui porte l'arche. Il fallait quatre personnes consacrées, uniquement choisies par Dieu à ce service, non pas sur un char neuf, mais selon les règles et les consignes que Dieu avait données à Moïse. 4 Lévites. Et parce qu'ils n'avaient pas respecté Dieu dans ses exigences divines, parce qu'il s'agissait de l'arche où Dieu se manifestait, c'est la mort qui va les frapper. David sera outré de cela. Mais c'est lui-même qui dit, au verset 13, « Parce que vous n'y étiez pas. » Pourtant, il avait envoyé chercher tout le monde, les sacrificateurs et les lévites. Mais il dit « Vous n'y étiez pas. » Donc il se peut que la première fois, quand ils ont été chercher l'arche, les sacrificateurs et les lévites ne s'étaient pas consacrés, ils n'y étaient pas comme il fallait. Et il leur dit « Vous n'y étiez pas. » La première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. On ne peut pas chercher la présence de Dieu comme on en a envie. C'est pour ça que je vous disais en introduction, pour ceux qui ont perdu la présence de Dieu et qui retournent au milieu des statues, qui retournent au milieu des prières qu'on adresse aux morts, qui retournent aux prières au sein des lieux où on officie des baptêmes pour des petits bébés, ce n'est pas là qu'ils vont trouver la présence de Dieu. On ne peut pas chercher la présence de Dieu comme on en a envie. Dieu peut se révéler à eux, même dans ces lieux-là, par amour, pour les ramener à lui. Mais s'ils veulent vraiment de la présence de Dieu, ce n'est pas dans ces conditions qu'ils la trouveront. On ne peut pas trouver la présence de Dieu comme on en a envie. On ne peut pas rester devant sa télévision toute la journée et pouvoir trouver la présence de Dieu comme ça. On ne peut pas être à la plage tous les jours. Dès qu'on sort du travail, on veut trouver la présence de Dieu ainsi. On n'a jamais de temps qu'on consacre à Dieu et puis on voudrait trouver la présence de Dieu. Pas à la manière dont nous voulons, mais à la manière dont Dieu le veut. C'est pour ça que Jérémie 29, 13 nous dit ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Tout votre cœur. Et lorsque vous allez vous évertuer à chercher, et lorsque nous allons nous évertuer à chercher la présence de Dieu comme Dieu le veut, il se peut que nous fassions face à la moquerie et à la raillerie. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui est important. La deuxième fois, quand David a respecté ce que Dieu avait exigé pour amener l'arche, et qu'il dansait à nouveau, qu'il était joyeux, qu'il sautait de joie, sa femme Milka l'a méprisé parce que c'était le roi. Lorsqu'elle l'a vu arriver au loin avec le peuple et voyant son mari, le roi, en train de s'émoussiller, de danser, de laisser éclater sa joie parce que la présence à travers l'arche de l'Éternel revenait au sein du peuple, elle va le mépriser dans son cœur. Si on vous méprise parce que vous venez à l'église justement, parce que vous venez dans la communion des saints, parce que vous dites à vos amis qui veulent vous entraîner ailleurs qu'au culte, et vous vous dites non, je vais dans la présence de Dieu, je vais avec mes frères et mes sœurs louer, adorer Dieu, et que vos amis vous méprisent, ils se moquent de vous, ce n'est pas grave, laissez-les se moquer, mais vous venez dans la présence de Dieu, et nous venons dans la présence de Dieu. 2 Samuel 6, 16 dit ainsi, le proverbe, je vais dire directement, proverbe 14, 21 nous dit, « Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. » Et en 1 Samuel 2, 30, Dieu dit, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Vous serez peut-être méprisés. Nous serons peut-être méprisés. Parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas en train de danser avec d'autres sur des plages. On peut y aller cet après-midi, il n'y a aucun mal à cela. Mais nous avons choisi d'être ensemble pour adorer Dieu ce matin. Et peut-être Dieu vous méprise parce que c'est là votre choix, parce que c'est là notre choix. Ce n'est pas grave, nous avons fait le bon choix. Nous avons choisi la présence de Dieu. Je termine maintenant, Ésaïe 28, 23, il est dit ceci, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. » Soyez attentifs et écoutez ma parole. C'est ce que Dieu nous invite à faire chaque jour de notre vie. Et pour faire ça, nous pouvons le faire comment ? Dans la présence de Dieu. dans la présence de Dieu, lorsque nous nous tenons dans sa présence, dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans la communion des saints à l'Église, dans la présence de Dieu. Nous allons entendre sa voix, il va nous parler, il va nous encourager, il va nous bénir. C'est là qu'il pourra nous dire, je marcherai moi-même avec toi, je mettrai en déroute tes ennemis, j'ouvrirai la porte qui est fermée devant toi, que nul ne pourra fermer parce que c'est moi qui l'ouvrira pour toi. Je te donnerai une parole de réconfort, je viendrai à ton secours pour te délivrer. Tout ça, c'est dans la présence de Dieu, dans sa présence indéfectible. Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que dans ta présence qu'on peut se faire réellement du bien. Chaque jour,